France Inter.
Lors du journal d'Éric Delvaux. Bonjour Éric.
Bonjour mon cher Thomas Négaroff et bonjour à tous. À la une de ce 13h, Israël qui annonce que ses objectifs en Iran deviennent prioritaires par rapport à ceux de la bande de Gaza. L'escalade militaire à Tel Aviv, l'aéroport international Ben Gurion est fermé jusqu'à nouvel ordre. En Iran, c'est tout l'espace aérien qui vient de fermer. Nous serons en direct de Jérusalem et puis en ligne de Téhéran et nous entendrons aussi l'ambassadeur d'Israël en France. Il laisse entendre qu'Israël poursuivra sa politique d'assassinat ciblé en Iran. En France, le congrès du Parti Socialiste, c'est à Nancy. Olivier Faure a été officiellement réélu ce matin au fauteuil de premier secrétaire avec 51,15% des voix. Sera-ce suffisant pour donner un second souffle au PS? Eh bien, nous en parlerons avec notre invité, le député socialiste de l'heure, Philippe Brun. Attention aux orages, on fera le point météo en fin de journal. La foudre a déjà fait un mort dans les Yvelines et une blessée grave hier soir en région parisienne. Et puis, nous reviendrons sur cette affaire de faux certificats médicaux sur Internet. Un homme comparaîtra en novembre pour fraude sociale et blanchiment. Enfin, nous rejoindrons Fanny Lechevestrier sur la 7e étape du Critérium du Dauphiné, c'est du cyclisme. Et après ce journal, votre magazine d'investigation, Secret d'Info, Benoît Colomba, sur quel thème ?
Eh bien, alors que la santé mentale des plus jeunes est au cœur de l'actualité, nous allons revenir sur l'impact des écrans sur les enfants et les adolescents. Les écrans, c'est un enjeu commercial énorme pour l'industrie du numérique et les GAFAM. On lève le voile sur leur stratégie pour capter l'argent public et mettre un pied dans les écoles françaises.
À tout à l'heure, Benoît. Et puis le temps de ce samedi, Magali Rochereau. Attention donc à cette vigilance aux orages. Ça va du Massif central jusqu'au nord-est.
Oui, Eric, il y a un air qui reste sec du côté du nord-ouest, mais toujours de fortes chaleurs dans le sud-est.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes.
France Inter.
La guerre israélo-iranienne, jour 2. Israël a subi la nuit dernière 3 salves de missiles iraniens interceptés pour la plupart. Certains sont tout de même tombés sur le sol israélien. Il y aura au moins 3 morts, une dizaine de blessés dans une zone résidentielle. L'armée israélienne a de son côté intensifié ses tirs de missiles pour démanteler les capacités militaires de son ennemi juré. Bonjour Thibault Lefebvre.
Bonjour Eric.
Vous êtes en direct de Jérusalem. Israël qui affirme ce matin que la guerre contre l'Iran devient sa priorité devant les objectifs dans la bande de Gaza.
Ouais, c'était évidemment clairement l'inquiétude des familles des 53 derniers otages à Gaza, que la libération de leurs proches ne soit plus la priorité de leur gouvernement. Eh bien, c'est le cas depuis ce matin et c'est un véritable tournant ici dans le débat public, mais aussi et surtout dans la mobilisation générale. Des dizaines de milliers de réservistes ont été appelés pour renforcer l'armée de l'air, le renseignement et quadriller le territoire. Leur présence permet de libérer des soldats pour protéger les frontières et notamment au nord, où Israël semble craindre de nouvelles frappes en provenance du Liban et de Syrie. Des drones d'attaque ont été envoyés ce matin sur la Galilée au nord donc. Ils ont été interceptés. Rien de comparable évidemment avec les vagues de missiles balistiques partis d'Iran hier soir. Des immeubles ont été éventrés. 3 civils sont morts. Il y a des dizaines de blessés. Et ce matin, l'État hébreu hausse encore le ton par la voix de son ministre de la Défense Israël Katz. L'avertissement est limpide. Si Khamenei, le guide suprême, continue de tirer des missiles sur les civils israéliens, dit-il, eh bien Téhéran brûlera.
Thibault Lefebvre, en direct de Jérusalem. Israël a également mené des attaques visant l'organigramme militaire de l'Iran, des assassinats ciblés qui pourraient bien se multiplier. C'est ce que disait ce matin l'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarka, invité de nos confrères de France Info.
Il est possible qu'il y ait des attaques qui n'attaquent pas seulement les dirigeants militaires de l'Iran, mais aussi peut-être des cibles qui seraient plus politiques, par exemple gouvernementales, etc. Ces genres de décisions opératives qui sont prises par le Premier ministre, par le ministre de la Défense, et dont je n'ai pas les détails. Alors donc, on parle théoriquement, mais je pense qu'aujourd'hui, après la réaction iranienne, ça va relever le niveau de nos échanges avec les Iraniens.
Jusqu'où ira l'offensive? Quel est le but? À quel moment vous considérerez que l'opération est terminée?
Une fois que les Iraniens n'auront pas de capacité de développer l'arme nucléaire. Vous savez, notre opération a pour but de débarrasser Israël, de débarrasser le Moyen-Orient et le monde de la menace nucléaire iranienne.
Et en Iran maintenant, l'espace aérien est fermé jusqu'à nouvel ordre. Le bilan des attaques d'Israël est ce matin de 80 morts, dont deux généraux iraniens, plusieurs centaines de blessés. Le régime iranien promet des ripostes encore plus dures contre Israël. Siavosh Ghazi, vous êtes en ligne de Téhéran, bonjour.
Bonjour.
Pas de répit donc dans les combats, bien au contraire.
Les frappes israéliennes ont repris à la mi-journée les villes d'Abadan, de Tabriz, mais aussi Kermanshah, situées le long de la frontière avec l'Irak, ont été frappés depuis 2 heures. Dans la nuit, des avions israéliens avaient visé l'aéroport international de Mehrabad à Téhéran avec un important incendie. C'est la partie militaire de l'aéroport qui a été touchée. Et d'autres quartiers de la capitale ont également été visés dans la nuit. L'armée israélienne avait mené une série d'attaques contre Téhéran, Karaj, Ispahan, mais aussi Qom, notamment contre le site d'enrichissement de Fordow. Les autorités iraniennes ont affirmé que les dégâts avaient été mineurs. Ces nouvelles attaques interviennent alors que l'Iran a lancé des centaines de missiles contre Israël et un responsable iranien a déclaré que la riposte iranienne allait se durcir et durer autant que nécessaire. Ce matin, les médias iraniens ont également affirmé que l'armée avait lancé des drones d'attaque contre Israël. Les deux pays s'installent désormais dans une guerre ouverte qui peut durer pendant des jours ou encore des semaines.
Et selon un média d'État iranien, ce sont au total 9 scientifiques nucléaires iraniens qui ont été tués dans les attaques israéliennes de vendredi. Et l'Iran qui avertit désormais la France, il avertit les États-Unis aussi et le Royaume-Uni que leurs bases et navires dans la région seraient pris pour cible s'ils venaient en aide à Israël pour contrer les frappes de Téhéran. C'était Siavosh Ghazi en ligne de Téhéran. Et puis en marge de cette guerre israélo-iranienne, il y a les mots du pape ce matin. Léon XIV appelle les deux pays à la responsabilité et à la raison. Les mots du pape donc, et à l'inverse, le silence de Donald Trump. Car dans cette guerre, le président américain semble avoir beaucoup de peine à clarifier ses intentions. À Washington, correspondance de Loïc Loury.
Quelques messages postés sur son réseau social, une poignée de déclarations laconiques à la presse, mais aucune véritable prise de parole. Rarement Donald Trump, compte tenu des enjeux, n'aura été aussi peu loquace. Le signe sans doute de son embarras, le président n'ayant a priori aucune envie d'être aspiré dans un nouveau conflit impossible à résoudre. Jeudi, le milliardaire demandait ainsi à son grand allié de ne pas attaquer l'Iran, sans succès donc, ce qui ne l'empêchait pas hier de parler d'une excellente opération, une façon de ne pas perdre la face alors que ses négociations avec Téhéran sur le programme nucléaire iranien sont très certainement à mettre à la poubelle. Et si Washington, sans surprise, a contribué hier et cette nuit à la défense d'Israël, la priorité est ailleurs, comme le rappelait le secrétaire d'État, dans la protection des plus de 40 000 soldats américains déployés dans la région. New York, Loïc Loury, France Inter.
Et c'est aujourd'hui l'anniversaire de Donald Trump. 79 ans, une grande parade militaire se tiendra dans les rues de Washington. Ce sera surtout pour célébrer les 250 ans de la création de l'armée de terre américaine. En 2017, Donald Trump avait été subjugué par le défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées. À l'époque, il était l'invité d'honneur et il rêvait donc depuis de reproduire un événement similaire aux États-Unis. Retenez encore qu'aujourd'hui, il y aura des manifestations aux États-Unis contre l'autoritarisme du président américain. Un dernier mot sur cette guerre israélo-iranienne avec ses conséquences en France. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, demande au préfet de mobiliser les forces de sécurité intérieure pour sécuriser l'espace public, sécuriser les transports aussi avec, dit-il, une attention toute particulière autour des lieux de culte, des établissements scolaires et des rassemblements festifs.
France Inter, le journal de 13h, Éric Delvaux.
Ne manquez pas le point météo, ce sera en fin de journal. Il y a 11 départements en vigilance aux orages cet après-midi. La nuit aussi a été très agitée dans l'ouest et le nord de la France. Le sud-ouest également touché par la foudre. Bonjour William Delesseux.
Bonjour Éric.
Le premier bilan est d'un mort et une blessée grave en région parisienne.
Oui, d'abord dans les Yvelines à Grandchamp, aux alentours de 22h. Plusieurs chasseurs se réfugient dans un pavillon de chasse lorsque les premiers orages éclatent. alerte. La foudre touche un arbre qui, dans sa chute, est tombé sur le pavillon et un homme, l'un de ses chasseurs âgé de 68 ans, est mort sur le coup, renseigne la gendarmerie. À Paris, une femme est gravement blessée après la chute d'une branche d'arbre quai Saint-Bernard dans le 5e arrondissement. La foudre a frappé l'arbre sous lequel elle se trouvait. Elle a été plongée dans le coma et a fait un arrêt cardio-respiratoire avant d'être réanimée. Une dizaine de personnes sont légèrement blessées hier soir après le passage de ces orages particulièrement actifs. 60 000 impacts de foudre ont par exemple touché le seul département des Pyrénées-Atlantiques. Partout en France, plus de 1200 pompiers ont été mobilisés dans près de 900 interventions dans la soirée.
Et ce matin, il reste 12 000 foyers privés d'électricité en Dordogne, 6 500 en Normandie, 2 500 dans l'Eure et en Gironde, 2 000 privés d'électricité encore en Seine-Maritime. Ce sont les chiffres d'Enedis. Grand merci à William Delesseux. Le congrès des socialistes, c'est à Nancy ce week-end. Olivier Faure a été officiellement réélu ce matin, premier secrétaire du parti avec 51,15% des voix. Il s'agit désormais de clarifier les courants en interne et de préparer aussi les prochains scrutins municipaux l'an prochain et présidentiel en 2027. Eh bien, on en parle avec le député socialiste de l'Eure. Bonjour Philippe Brun.
Bonjour.
Vous êtes en direct de ce congrès de Nancy. Vous restez parmi les rivaux d'Olivier Faure au sein du PS et vous avez d'ailleurs votre propre contribution, hein, je crois, pour un nouveau socialisme. Où en sont vos tractations pour fédérer les opposants à Olivier Faure ?
Écoutez, là, on est en train de discuter. Il y a une commission qui est en train de se réunir. On est autour de la table avec les principaux dirigeants du parti pour se mettre d'accord éventuellement sur une motion de synthèse. Il y a plusieurs sujets qui sont importants pour nous. Le premier, c'est que nous souhaitons que le parti parle aux ouvriers et aux employés. Aujourd'hui, plus personne ne comprend ce que raconte le Parti Socialiste. Les ouvriers et les employés ne votent plus pour nous. Et c'est l'arrêt central que je porte avec mes amis du Nouveau Socialisme. Ensuite, nous souhaitons appliquer le principe de parité populaire, c'est-à-dire de présenter aux élections des ouvriers et des employés. Aujourd'hui, 80% des députés à l'Assemblée nationale sont des cadres, alors que 80% des Français ne le sont pas. Il faut aujourd'hui faire entrer ces gens qui travaillent et qui sont absents de la représentation politique. Et puis, on a des discussions, bien sûr, sur la question des municipales, accord ou pas avec la France insoumise, nous y sommes défavorables. On a des discussions, bien sûr,
on
sur
l'organisation
de la présidentielle.
Vous dites mieux parler aux ouvriers, mais que manque-t-il au PS aujourd'hui pour redevenir audible sur ces sujets dans les débats publics et médiatiques ?
Nous proposons, nous, d'abord, de redonner une vraie centralité aux questions économiques, le salaire, le pouvoir d'achat. Et nous pensons que le PS est un peu perdu, comme le reste de la gauche, d'ailleurs, dans des sujets un peu périphériques.
Oui, mais vous aviez critiqué le mode de fonctionnement du parti sous Olivier Faure. Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas bien, selon vous, et qu'il faudrait donc changer ?
Alors, ce qui fonctionne pas, c'est qu'aujourd'hui, le Parti Socialiste fonctionne comme une multinationale, mais avec le chiffre d'affaires d'une boulangerie. Le Parti Socialiste fonctionne comme au moment de la SFIO, avec des courants, des votes qu'on fait en papier dans des boîtes à chaussures. Il faut renouveler la doctrine, on en a parlé à l'instant. Il faut renouveler aussi notre organisation, notre fonctionnement. On n'a pas de chaîne TikTok, on doit avoir 25 abonnés sur notre chaîne YouTube. Je crois qu'il faut donner à la France un grand parti de gauche populaire qui parle à tout le monde et qui soit mis à jour, à la page, pour gagner les combats importants que nous avons à gagner contre le gouvernement Macron et bien sûr contre l'extrême droite. C'est tout cela dont nous sommes en train de discuter justement.
Il s'agira aussi de préparer les prochains scrutins. Le Parti Socialiste doit-il y aller seul ou bien uni avec d'autres forces de gauche ?
Nous sommes favorables à l'union de la gauche avec les écologistes, les communistes, les amis de François Ruffin, Clémentine Autain, Alexis Corbière et Raquel Garrido, pas de problème. Avec bien sûr les rassemblements les plus larges possibles, mais nous sommes, nous, le courant Nouveau Socialisme avec Nicolas Maillard-Rossignol, nous sommes pas favorables à un accord global avec la France Insoumise, parce que nous pensons qu'il y a un certain nombre de divergences importantes qui nous opposent, et nous critiquons le fait que la France Insoumise aille aujourd'hui dans attaquer les maires socialistes à Marseille, Benoît Payan, à Montpellier, Miguel Delafosse, partout finalement, là où nous réussissons, la principale volonté de Jean-Luc Mélenchon, c'est de faire perdre les socialistes, et cela nous ne pouvons pas l'accepter.
Vous venez de parler de Nicolas Maillard-Rossignol, avec Boris Vallaud, il a fait partie des rivaux d'Olivier Faure. Est-ce qu'Olivier Faure va tenter de leur donner un poste dans le futur organigramme du PS ?
Alors, avant de discuter des postes, là, on est dans une discussion de fond, là. Donc, je suis le négociateur au nom de notre texte d'orientation.
Remarquez, les congrès sont aussi là pour fédérer un parti qui était divisé.
Voilà. Bien, alors si nous sommes d'accord tous sur le fond, ce qui n'était pas le cas durant le congrès, alors nous aurions une direction commune. S'il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas de synthèse, alors il n'y aura pas de direction commune.
Merci beaucoup, Philippe Brun, député socialiste de l'Eure, en direct donc de ce congrès du Parti Socialiste à Nancy, avec les moyens techniques d'Hélène Langlois. À présent, cette information du parquet de Mont-de-Marsan, l'homme qui avait créé un site internet pour vendre des milliers de faux arrêts de travail médicaux, eh bien, il sera jugé en novembre pour fraude sociale et blanchiment. C'est un Landais de 22 ans. Il avait ouvert un site baptisé stoptravail.com. Bonjour, Nolwenn Lejeune.
Bonjour.
Pendant un an, cet homme avait délivré plus de 20 000 faux arrêts de travail.
Oui, stoptravail.com, vous l'avez dit, c'est le nom sans équivoque de ce site, créé et administré par le mis en cause qui le faisait héberger par une société chypriote. Le principe était simple. Les personnes souhaitant obtenir un arrêt de travail n'avaient qu'à s'y connecter, puis choisir des symptômes codifiés dans la nomenclature de la sécurité sociale et sélectionner un médecin situé dans leur secteur géographique. Le jeune homme imitait alors la signature du professionnel ou générait un faux QR code. Selon le procureur de Mont-de-Marsan, plus de 42 000 personnes ont effectué une demande sur le site entre avril 2024 et avril 2025 et plus de la moitié ont reçu un faux arrêt de travail en s'acquittant d'environ 10 euros. Le bénéfice est estimé à 250 000 euros. Le mis en cause, déjà condamné notamment pour escroquerie, sera jugé en novembre prochain. Il encourt 10 ans de prison et 750 000 euros d'amende.
Nolwenn Lejeune, service police-justice de France Inter. Ce matin, un homme est mort, deux autres sont gravement blessés dans une fusillade qui est intervenu dans un camp de migrants à Lonne-Plage et donc dans le Nord. Le cyclisme avec le critérium du Dauphiné. Le départ de la 7e étape a été donné il y a un peu plus d'une heure à Grande Aigue Blanche. On va rouler jusqu'à Valmeignier. C'est un peu l'étape reine de la semaine. Bonjour Fanny Le Chevestrier.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Plus de 131 km à parcourir avec une arrivée au sommet. Trois cols hors catégorie. Il y a de quoi mettre en jambe les cyclistes pour le Tour de France. Hein.
Oui, il fallait pas se manquer au départ ce matin puisque les coureurs ont déjà avalé le col de la Madeleine avec énormément de distancés. Pour vous dire, il n'y a plus qu'une quarantaine de coureurs dans le peloton principal, celui du maillot jaune et bleu de leader de Tadej Pogacar devant un groupe de 15 coureurs dont Romain Bardet, vous le savez, Romain Bardet qui arrêtera sa carrière professionnelle demain à l'issue de ce critérium. Et bien jusqu'au bout, il aura voulu être à l'attaque. Il est devant avec du beau monde, d'autres Français, Bruno Armirail est également là, ou encore Valentin Paré-Peintre, mais bien sûr, vous l'avez dit, c'est encore une répétition à trois semaines du Tour de France. Hier, Tadej Pogacar a frappé très très fort avec une seule difficulté au programme. Que va-t-il en être aujourd'hui face à ses rivaux, Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel? Est-ce qu'ils vont tenter de répondre justement à la maestria présentée par Tadej Pogacar hier? On verra cela dans le prochain col qui sera celui de la Croix-Fer. Ça monte, ça descend aujourd'hui et ça remonte jusqu'à Valmeignier.
Fanny Le Chevestrier sur la 7e étape du Critérium du Dauphiné. L'arrivée est prévue aux alentours de 16h20. Nous partons à Annecy pour le festival des films d'animation. Les films d'animation français qui vont sortir nombreux dans les salles ces prochaines semaines. Sur les plateformes également, les séries conçues par les studios Tricolor Cartoon comme Astérix Le Combat des Chefs ou Arcane. Sauf que derrière tous ces succès, il y a en fait une industrie en crise. C'est le constat que fait notre envoyée spéciale Margot Barallon à ce festival d'animation d'Annecy.
Deux salles, deux ambiances, comme le symbole d'une industrie à deux vitesses. Les spectateurs applaudissent les fleurons de l'animation française, comme le studio TAT, venu présenter le divertissement familial Falcon Express. Dans les rues d'Annecy, les salariés dénoncent leur précarité, accentuée par la crise du secteur. Relocalisée de l'Asie vers la France ces 15 dernières années, l'animation a connu une période faste, portée par les investissements des plateformes comme Netflix ou Disney+. Mais aujourd'hui, leur catalogue affiche complet, les commandes se tarissent et parallèlement, les budgets alloués à la culture s'amenuisent. Nicolas Yacinski, délégué général du SPIAC-CGT.
Les studios dépendent beaucoup d'aides régionales pour démarrer leurs projets. Quand on voit que les budgets sont coupés du jour au lendemain, d'une année à l'autre, ça devient tout de suite très compliqué à très court terme.
Pour Véronique Encrenat, directrice du du marché international du film d'animation, le secteur pâtit aussi d'un public trop restreint.
Tout le monde connaît l'animation pour enfants, ça se consomme très facilement, ça s'exporte très facilement. Et ensuite, l'animation adulte, c'est quand même très particulier. Il faut acculturer aussi toute une jeunesse qui, elle, est prête. Mais peut-être c'est une jeunesse qui ne retourne encore pas suffisamment dans les salles.
L'animation française s'attend à un prochain grand bouleversement, l'arrivée de l'intelligence artificielle générative dans les productions.
La fin donc aujourd'hui du Festival de films d'animation d'Annecy. Reportage de Margot Barallon. Le temps.
La météo avec TGV Inouï. Trouvez votre coin de ciel bleu dans une de nos 200 destinations en France et vers l'Europe.
Bonjour Magali Rochereau.
Bonjour Eric.
Toujours ces orages entre le sud-ouest et les frontières du nord.
Oui Eric, cet après-midi, ils éclatent à partir de 16h sur l'Auvergne et le Limousin et vont se propager en fin de journée sur la Bourgogne et puis s'étirer en soirée du nord du Massif central au nord-est en passant par l'est de l'Île-de-France, s'accompagnant de fortes pluies, parfois de grêle et entraînant une vigilance orange-orage sur 13 départements, l'Allier, le Puy-de-Dôme, la Loire, le Rhône et de la Saône-et-Loire et la Nièvre à la Meuse et à la Meurthe-et-Moselle pour le nord-est. L'Alsace, elle, reste épargnée comme le Jura et de même jusqu'en Méditerranée, comme du côté de la Normandie, de la Bretagne et au-dessus de l'embouchure de la Loire où l'air reste sec.
Et les températures sont à la baisse par le nord-ouest ?
Oui, elles se rapprochent des normales, si l'on peut dire, en restant encore bien au-dessus, notamment entre la Méditerranée et le Grand Est, où la chaleur reste tenace et accrue, avec un mercure qui dépasse régulièrement les 30 degrés et atteint même les 35 le long de la vallée du Rhône. Météo France prévoit 35 à Lyon et à Grenoble et 33 en Bourgogne-Franche-Comté.
Les prévisions de Magali Rochereau.